accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, les Hongrois vivent moins longtemps que les Grecs, les Polonais ou les Tchèques. C'est le constat peu glorieux d'une enquête récente d'Eurostat, l'organe statistique européen. L'espérance de vie des Hongrois est parmi les plus basses d'Europe, 72 ans pour les hommes, 79 ans pour les femmes. Principal coupable, le système de santé est délabré. Si certains hôpitaux de province ont été partiellement rénovés grâce à des fonds européens, à Budapest, les hôpitaux publics sont dans un état alarmant. Le système de santé n'a pas réussi à solder l'héritage du communisme. En 30 ans, aucun gouvernement n'a mené de véritables réformes. Les explications de Florence Labruyère.
C'est un palmarès dont les Hongrois se seraient bien passés. La Hongrie est le pays de l'Union européenne où le cancer tue le plus. C'est ce qui ressort d'une étude d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, qui vient de paraître. Sur 100 000 habitants, 345 Hongrois meurent du cancer chaque année. Un chiffre bien supérieur à la moyenne européenne, 257 morts par an, et plus élevé qu'en Roumanie, en France ou en Espagne. Quant aux décès dus aux infections nosocomiales, le gouvernement hongrois refuse de communiquer les chiffres. Ils seraient catastrophiques, selon une association de médecins. Impossible de ne pas faire le lien entre ces décès et le délabrement du système de santé et de l'hôpital public. Les médecins et les infirmières sont tellement mal payés qu'ils quittent le pays en masse. L'hôpital manque cruellement de personnel et ce sont les plus qualifiés qui s'en vont. Difficile, dans ces conditions, de faire de la prévention ou d'établir un bon diagnostic. De plus, les malades doivent tout apporter, le coton, les pansements et même le papier toilette. À Budapest, l'hôpital Saint-Jean a lancé un appel aux dons le jour de la Saint-Nicolas. Il a publié ce message « Si vous voulez nous faire un cadeau, apportez-nous des cuvettes de WC, car nous n'avons pas d'argent pour les remplacer ». Certes, il existe des établissements privés, mais ils ne sont pas conventionnés et le malade doit tout payer de sa poche sans pouvoir se faire rembourser. Et les cliniques privées n'ont pas de service d'urgence. Or, les urgences, c'est le point faible des hôpitaux hongrois. Récemment, une écrivaine connue a fait une allergie au vaccin de la grippe. Elle a attendu plus de 6 heures aux urgences et elle est morte car personne ne l'a prise en charge. Aujourd'hui, en Hongrie, on meurt à l'hôpital, faute de soins.
Et ce chiffre encore parlant, en Hongrie, les dépenses publiques de santé ne représentent que 4,6% du PIB contre plus de 9% en France ou en Allemagne. En Serbie, faute de pouvoir augmenter les salaires, le pays a pris une mesure étonnante il y a un an, la légalisation des pots de vin aux médecins. Officiellement, l'objectif est d'encadrer la corruption qui gangrène la santé publique depuis de longues années dans le pays. Mais difficile d'imaginer que cette mesure puisse être efficace, Simon Rico.
Selon la nouvelle loi sur la protection sociale adoptée le 3 avril 2019 par le Parlement serbe, les médecins sont désormais autorisés à recevoir de leurs patients des cadeaux en nature dont la valeur totale ne doit toutefois pas dépasser les 462 euros, c'est-à-dire l'équivalent d'un salaire moyen net. La valeur d'un cadeau est elle aussi limitée à 23 euros par patient. Le texte de loi précise que les cadeaux en nature dont la valeur dépassera ce seuil, de même que tous les dons financiers, seront considérés comme de la corruption. L'association Médecins contre la corruption a immédiatement réagi, considérant qu'il s'agit tout simplement de la légalisation d'une forme de corruption déjà répandue en Serbie. Les citoyens paient la sécurité sociale, ils ne devraient pas avoir à offrir des cadeaux, s'est indigné son président Draško Karadžinović, qui souligne que cette mesure annule le principe de l'universalité et de l'accessibilité de la sécurité sociale, d'autant que personne ne sait comment est contrôlée la valeur des biens en nature qui sont offerts aux médecins. Pour s'assurer d'être correctement soignés, les patients serbes ont pris l'habitude de faire des cadeaux à leurs soignants. C'est aussi un bon moyen pour ces derniers d'arrondir leur fin de mois. C'est un signe d'appréciation, justifie de nombreux médecins qui rappellent qu'après une opération réussie, il n'est pas rare que le chirurgien se fasse offrir un cochon rôti en guise de remerciement. Dans les faits, la frontière semble très floue et rien ne permet de s'assurer que la légalisation par le gouvernement serbe de ces cadeaux en nature ne permette de résorber les dessous de table qui remplissent illégalement les poches des médecins depuis des décennies.
Accepter de l'argent pour une intervention médicale est pourtant bien passible de prison en Serbie, mais les condamnations sont rares, faute de témoignages et de preuves. Alors qu'en France, les hôpitaux publics sont en grève depuis 8 mois pour défendre un système de santé qui craque face aux coupes budgétaires, En Espagne, le système des urgences en zone rurale résiste et a même réussi à s'imposer. Si la crise économique de 2008 avait obligé certains centres de soins à fermer, sous la pression des habitants et des pouvoirs publics, la majorité d'entre eux a réouvert. Notre correspondante Diane Cambon s'est rendue en Estrémadour, une région très rurale avec une faible densité de population, où ce réseau de petites urgences sauve régulièrement des vies. Reportage.
La nuit s'annonce calme au service des urgences de Losar de la Vera, un petit village de 2800 âmes, situé au nord de l'Estrémadure et à 35 km de la première ville moyenne. Le médecin, l'infirmier et l'ambulancier, qui composent l'équipe de nuit de garde, entament une discussion animée, assis dans de confortables fauteuils, jetant un regard discret de temps en temps à l'écran de télévision. Marta Sanchez, la médecin généraliste, âgée d'à peine 30 ans, travaille depuis un an dans ce village. Elle reçoit une quinzaine de patients par nuit et a déjà connu toutes sortes d'expériences.
La majorité des cas traités sont des pathologies légères, mais nous avons affaire à toutes sortes de cas, comme les accidents de voiture, par exemple. Nous sommes les premiers à intervenir car nous sommes les plus proches. Nous sommes en pleine campagne.
Pour la seule région d'Estrémadure, il existe 127 centres d'urgence, qu'on appelle en espagnol, littéralement, point d'attention continue. Malgré les pressions budgétaires, le gouvernement régional socialiste a décidé de maintenir ses unités. Chaque centre a un coût annuel de 250 000 euros, indispensable pour le docteur Marta Sanchez.
Un des problèmes de l'Estrémadour est que cette région a une population très dispersée. L'accès à un grand hôpital n'est pas facile. Il est donc très important qu'existent les points d'attention continue ouverts 24 heures sur 24. C'est un premier service qui permet de filtrer et de savoir s'il faut envoyer ou pas le patient vers l'hôpital pour poursuivre les soins.
Permettre de désengorger les urgences des hôpitaux des villes moyennes est l'une des fonctions de ces unités d'urgence, mais aussi et surtout de rendre un service à une population rurale vieillissante qui a du mal à se déplacer, comme l'explique l'infirmier de garde Miguel.
Pensez que dans ce village, il y a 3 maisons de retraite. Nous avons beaucoup d'anciens, et donc le fait qu'il y ait un médecin, un infirmier et un ambulancier qui peuvent se déplacer aussi à domicile, c'est très rassurant pour les personnes âgées.
En septembre, Pedro Rubio, âgé de 59 ans, a senti des pincements au niveau du cœur au milieu de la nuit. Sans trop réfléchir, il a pris sa voiture et a parcouru les 2 kilomètres qui séparent sa maison du centre d'urgence de Losar. À son arrivée, il s'est écroulé dans le hall d'entrée et a été pris immédiatement en charge.
Très rapidement, ils m'ont attrapé et m'ont mis une pastille sous la langue. Puis ils m'ont fait une piqûre, ils m'ont pris la tension avant de m'embarquer en toute hâte dans l'ambulance, direction l'hôpital de Cáceres. Ils m'ont sauvé la vie. J'ai eu une crise cardiaque et si ce centre de santé n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu aller jusqu'à l'hôpital le plus proche à 38 km. Je n'y serais pas arrivé.
Les services sanitaires d'Estrémadure font tout pour maintenir ces centres médicaux d'urgence. Le personnel touche 500 euros supplémentaires pour chaque garde effectuée. Mais malgré ces incitations financières, il n'est pas toujours facile de recruter, comme l'explique Victor Manuel de Ramos, le chef des urgences de l'hôpital de Navalmoral, dont dépendent les petites urgences.
En Espagne, il y a un déficit de médecins et c'est sûr que dans les zones rurales, on est désavantagé par rapport à la ville pour recruter des jeunes médecins qui sont plus séduits par une vie plus urbaine et on a donc du mal pour couvrir tous les postes.
L'Espagne n'est toutefois pas encore touchée par le désert médical. Avec 3,9 médecins pour 1000 habitants, la péninsule ibérique est un des pays d'Europe où l'on compte le plus de médecins en fonction de la population.
En France, dans la capitale et sa région, c'est un phénomène en augmentation. Les hôpitaux deviennent des refuges contre la rue. Fin novembre, 62 femmes très enceintes étaient ainsi identifiées sans abri à Paris. Incapables de se loger, ces jeunes mères, relevant de l'aide médicale d'État, se retrouvent hébergées dans les maternités parisiennes. Une situation qui dépasse totalement l'administration et les soignants. Depuis 2017, l'hôpital de Paris a donc noué un partenariat avec une association pour trouver un toit à ces femmes et leurs nouveau-nés. Reportage de Juliette Rangeval.
J'étais dans Esquatch. On nous a chassés, moi et puis mon mari, on nous a mis dehors. J'ai fait toute ma grossesse, mais dans la rue, en fait. J'appelle 115 jusqu'aujourd'hui. 115 me dit il faut que j'accouche d'abord. J'ai accouché maintenant. Jusqu'aujourd'hui, je suis à l'urgence. Rien n'a abouti. On dort par terre. Franchement, on en est mal. On en est mal. Le directeur est venu nous voir ici. Ils sont venus chercher d'autres filles. Mais nous sommes là. On ne comprend rien. On dort par terre. Depuis le 22, on dort par terre.
Des femmes qui dorment avec leur nouveau-né sur des matelas de fortune dans les salles d'attente des maternités parisiennes, faute de toit pour se loger. Face à cette situation de plus en plus courante, les soignants ont alerté, l'opinion s'est indignée. Mais le problème n'est pas nouveau et depuis 2017, la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, travaille avec l'association Aurore pour trouver un hébergement pour ces jeunes mères et leurs enfants. Un centre d'accueil temporaire a ouvert ses portes dans les locaux de l'ancien hôpital La Rochefoucauld dans le 14e arrondissement de Paris.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec l'association Aurore.
Siam Abchi est directrice d'activité de l'association. Ce centre d'urgence avec son grand jardin accueille 49 mamans et leurs bébés.
La situation, c'est qu'elles sont à la rue et qu'elles sont enceintes et qu'elles sont en grande précarité, en grande vulnérabilité. Qu'elles sont souvent seules, qu'elles ont vécu la violence, qu'elles n'ont pas d'aide, qu'elles ne connaissent pas leurs droits et qu'elles arrivent très démunies dans les maternités. Et le signal d'alarme a été lancé par les services sociaux des maternités afin de trouver des solutions adaptées.
Dans le hall d'accueil, quelques dames du voisinage venues, comme tous les mercredis, pour un goûter tricot. Des pères, il y en a quelques-uns et ils sont les bienvenus pendant la journée. Et puis, les mamans, bébés sur le dos ou installés dans leur poussette, prêts pour la promenade. La maman d'Israël va chercher un manteau avant de raconter un peu son quotidien.
Je continuais d'appeler le 115 pour qu'on puisse m'héberger tout et du coup, il me disait qu'il n'y avait pas place. Donc, je suis restée là un mois et quelques. Et comme ça, un jour, on voyait l'adresse. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Là, Israël avait déjà presque un mois et demi. Et on est arrivé ici. Donc depuis ce jour, on est là. Et aujourd'hui, deux jours là, la responsable, ils ont dit qu'ils vont nous changer et nous envoyer dans des différents endroits. Donc toujours en attente, on ne sait pas où est-ce qu'on va y aller.
Bientôt, il faudra repartir. Le centre est une structure temporaire qui va fermer ses portes à la fin du mois de mars. Il faut trouver d'autres lieux d'accueil pour toutes ces femmes. Un travail qui occupe beaucoup Siam Abchi et ses équipes, d'autant que le phénomène des femmes, des jeunes mères à la rue, n'est pas prêt de disparaître.
La réalité, elle est toujours là, elle est difficile, à la fois pour les soignants, mais aussi pour ces femmes. Mais je pense que si l'intelligence collective fonctionne, nous pouvons trouver des solutions adaptées rapidement. Et l'idée, c'est que ce type de dispositif puisse faire des petits et qu'il y en ait d'autres à Paris.
Le centre fonctionne en principe comme un sas, des femmes arrivent, d'autres repartent. Sauf que cela ne fonctionne pas forcément, comme l'explique l'une des assistantes sociales, Mathilde Ibora.
Le but de ce dispositif-là, c'était de désengorger les maternités sur un dispositif de 3 mois. Sauf qu'au vu de la réalité de l'hébergement sur Paris, le dispositif a perduré au-delà de 3 mois. Donc là, toutes les femmes qui sont arrivées au début de la structure sont toujours là. Il n'y a eu aucune réorientation pour le moment. Donc voilà, là on est en train de travailler autour de ça.
En attendant de leur retrouver un toit, les équipes de l'association aident ces femmes dans toutes leurs démarches. Ça passe par la lecture aux mamans du carnet de liaison de leur enfant au retour de l'école.
Akram, tu m'écoutes, c'est ta journée. Alors, bonjour madame. Akram a passé une bonne journée aujourd'hui. Il a participé à l'atelier chant animé par Mélanie, l'orthophoniste, et il a eu une séance de psychomotricité avec Laurent. Il a également fait connaissance avec Sandrine, la psychologue. Il est toujours aussi agréable et souriant.
Bonne soirée, Julie.
C'est bien, c'est bien, Akram.
Une lueur d'espoir pour les familles et pour les assistantes sociales, Mathilde Ibora.
Mais on a des petites victoires comme ça, voilà, pour cette famille-là. Donc, le petit garçon souffre d'un handicap. Et donc là, on a pu mettre en place un suivi, un accompagnement spécialisé pour cet enfant-là.
Éducation spécialisée, suivi des nouveau-nés par une puéricultrice et par les sages-femmes de PMI, travail sur la parentalité. L'hébergement permet aussi à ces femmes de construire l'avenir.
Maman, oui.
Son nom est bien connu, mais son identité reste un mystère. En Italie, Elena Ferrante est l'auteur de L'Amie prodigieuse, ce premier tome d'une saga sur l'amitié entre deux petites filles de Naples dans les années 50. Eh bien, ce best-seller, vendu à plus de 700 000 exemplaires et traduit dans 42 langues, pourrait bien avoir donné naissance à un autre phénomène.
un effet ferrante sur la littérature italienne, comme l'a récemment qualifié le New York Times dans un article. Cécile Desbarges, bonjour. Vous êtes l'une de nos correspondantes en Italie et cet effet ferrante, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est le fait que cet énorme succès d'un auteur au nom féminin entraînait dans son sillage toute une jeune génération d'écrivaines. Sur la scène littéraire italienne, jusque-là surtout monopolisée par les auteurs masculins, eh bien, tout à coup, des auteurs femmes sont devenues plus visibles. À ce sujet, j'ai rencontré à Bologne, la capitale de l'Émilie-Romagne, une ville à longue tradition littéraire, Anna Maria Tagliarini, qui a été pendant 25 ans la directrice de la Bibliothèque des femmes de la ville. C'est un lieu dédié à la culture faite par les femmes, qui comptent aujourd'hui près de 40 000 volumes.
Quand j'ai commencé à y travailler, il n'y avait pas encore Internet. On parle de la préhistoire. Je recevais à l'époque de la part des éditeurs italiens et internationaux des catalogues papier et je devais les feuilleter et sélectionner ce que je voulais commander pour notre fonds documentaire. La recherche des livres de femmes était quasiment archéologique, entomologique. Il fallait feuilleter 20 pages pour trouver un livre.
Elle a aussi décortiqué attentivement les gagnants du prix Strega, le plus grand prix littéraire italien depuis sa création, et c'est assez impressionnant. En 47 ans, seules 10 femmes ont reçu le prix, donc clairement, la féminisation de la scène littéraire en est à ses tout débuts.
À Bologne, en Émilie-Romagne, vous avez aussi rencontré l'une des plus grandes écrivaines contemporaines italiennes, Silvia Avallone. Elle a publié 3 romans, tous les 3 traduits en français. Que pense-t-elle de cet effet ferrante, elle qui incarne parfaitement cette nouvelle génération d'écrivaines italiennes ?
Silvia Avallone est assez catégorique à ce sujet.
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'effet ferrante, mais plutôt que l'ena ferrante est l'illustration d'un changement et que ce changement, c'est nous qui le faisons.
C'est-à-dire que le succès d'Elena Ferrante n'a pas déclenché une reconnaissance nouvelle pour les auteurs féminines, mais plutôt que c'est un bon exemple de ces auteurs qui s'émancipent et grignotent toujours plus de parts de marché. On parlait il y a quelques minutes du prix Strega, qu'ont remporté seulement 10 femmes en 47 éditions, mais un autre chiffre est important si on regarde les 5 ouvrages finalistes. On a ces dernières années de plus en plus de livres écrits par des femmes. Tout ça, ce sont des changements réels, lents et qui en réalité ont commencé bien avant le phénomène littéraire Elena Ferrante. Prenons par exemple le premier roman de Silvia Avallone, D'acier, un énorme succès en Italie mais aussi ailleurs dans le monde. Elle y raconte le destin d'une ville mais aussi de ses habitants qui tournent autour de l'acierie. C'était il y a 10 ans et elle avait tout juste 25 ans.
J'étais une jeunette qui parlait des ouvriers et l'antipathie de la part de certains, attention pas de tous, hein, que ce soit clair, je l'ai nettement ressenti. L'agacement, oui l'agacement face à cette femme jeune qui vient en plus d'un bled paumé de province italienne et qui se permet de raconter quelque chose qui est typiquement masculin. Les ouvriers, l'acierie, ça a provoqué de la méfiance, des préjugés, de l'agacement. Aujourd'hui, je pense que ce serait différent. Mais à l'époque, ça a été un baptême du feu pour moi.
En Italie, parler de cette acierie avec en toile de fond la grande histoire du déclin industriel de nos pays occidentaux, ça avait une portée polémique. La ville dont s'est inspirée Silvia Avallone a eu l'impression d'avoir eu une mauvaise publicité en oubliant parfois qu'il s'agissait d'un roman. Ça a posé un postulat, les écrivaines femmes ne doivent et ne sont pas cantonnées uniquement à la littérature féminine et elles s'emparent de tous les sujets qui leur plaisent. C'est pour Silvia Avallone le seul impératif qui vaille.
Et l'ammucchiamento delle donne in una categoria.
Le regroupement des femmes dans une catégorie, ça nous ramène à l'erreur originelle, à la question de la littérature féminine qui serait différente de la littérature masculine. Donc moi, je ne suis pas pour ces regroupements. Je n'aime pas me sentir à l'étroit dans une catégorie. Chacun vaut avec sa propre voix.
Silvia Avallone, qu'on peut lire en français avec les romans D'acier, Marina Bellezza et le dernier, La vie parfaite. Merci Cécile Desbarges. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Steven Elsley. Pour nous écouter à toute heure et partout, abonnez-vous à notre podcast Accent d'Europe sur RFI.fr. À demain!
RFI, la sélection du mois.